Radio Barque 31e, bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Et bonjour nos invités, Christine Breton et Enzo Lefebvre. Tous les deux qui sont responsables du PS, on verra tout à l'heure quelles sont leurs attributions spéciales et respectives. Et je commence tout de suite par le sommaire qui a inspiré notre contre-regardeur de la semaine, Michel Santo, si tu me permets ce néologisme. Alors, tu as fait un billet sur le docteur Le Guen, j'hallucine. Ça concerne le cannabis.
Parce que peu de gens savent, mais M. Le Guen, qui est ministre, est aussi docteur.
Voilà. Bon, oui, j'imagine que le titre n'était pas usurpé quand même.
Non, l'hallucination non plus.
Enfin, l'hallucination non plus. En deuxième partie, le maire de Sigean, Michel Jam, qui, selon toi, est toujours dans les crues.
Oui.
Qui l'aurait cru d'ailleurs, si tu me permets cette remarque.
Enfin, pas pour longtemps, mais j'expliquerai pourquoi.
En deuxième partie, la mort annoncée des primaires à gauche.
Oui, j'ai fait un billet là-dessus, qui me semble tout à fait d'opportunité.
Et nous finirons par ce que tu as intitulé Nouveau-Narbonne, les poubelles de la com.
Oui. Bon, eh bien, je m'expliquerai là-dessus.
C'est clair. Le sommaire étant ainsi précisé, Michel, tu peux commencer.
Oui, alors Le Guen, j'hallucine. Pourquoi cette expression ? Mais figure-toi, Jean-Claude, que je suis tombé sur, en écoutant ma radio tout le matin, sur cette prise de position de M. Le Guen, ministre du gouvernement Valls, sur la dépénalisation et donc la légalisation de la consommation du cannabis.
Ouais. Bon, c'est un marronnier, ça revient.
C'est un marronnier. Ce qui en soi, bon, est un problème qui mérite d'être posé sur la table, sauf qu'il est posé depuis de très longues années.
Et il revient à terme.
Sauf qu'à la circonstance, sortir ce genre de proposition en plein mouvement étudiant, en fait, lycéen et de rassemblement nid-de-boutistes sur certaines places de la République et d'ailleurs, c'est pas forcément innocent, Jean-Claude. Tu le comprends très bien. C'est s'adresser, d'une certaine manière, à une population de jeunes gens, en fait, qui se mobilisent.
Et c'est pas démagogique du tout.
Alors, ceux qui pourraient croire qu'effectivement, c'est une proposition qui correspond à une priorité nationale, enfin, qu'elle est d'importance, qu'il faut la traiter tout de suite, en fait, en même temps que la loi El Khomri, qui mobilise tous ces acteurs, jeunes et vieux, bon, c'est prendre quand même pour les auditeurs, et ceux qui ont entendu M. Le Guen en particulier, pour des imbéciles. Ou alors, bon, tout simplement, lui-même était sorti d'une nuit un peu agité.
Ah, est-ce que lui-même avait fumé les petites herbes de Provence ?
On peut le parier, bon, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est certain, quoi, hein, ce qui est certain, c'est que voilà, en fait, une proposition qui arrive de manière tout à fait opportune, et qui, dans la proposition avancée par M. Le Guen, meurt de plein fouet, hein. Toute l'idéologie, en fait, véhiculée par ces jeunes lycéens, en fait, des mouvements, en fait, en lutte contre la dictature néolibérale. Parce que j'ai vu des panneaux de « il faut lutter contre la politique ». Et la proposition pour justement régler ce problème, c'est d'ouvrir le marché et de le légaliser.
Ce qui dans l'histoire,
donc, c'est un oxymore politique. C'est un oxymore, c'est une contradiction dans les termes. C'est le soleil noir, par exemple. Je ferme la parenthèse grammaticale pour expliquer ce qu'est un oxymore politique dans la circonstance. Mais voilà, donc, comment faire avec une proposition adressée du style parfaitement libéral, on espère satisfaire effectivement des gens qui luttent contre la dictature néolibérale.
Et je pose la question.
Au-delà de l'ironie, hein, c'est un vrai problème, quoi. Hein, c'est un vrai problème. Et après tout, il s'est posé dans les années d'après-guerre. Notamment aux États-Unis.
Il s'est posé,
quand il a fallu lutter contre la prohibition de l'alcool, et les Américains à l'époque, bon, on fait la démonstration, ouvrant le marché, en le légalisant, en fait, en faisant rentrer de la fiscalité, en faisant, bon, etc., qu'ils avaient résolu non pas le problème de la consommation de l'alcool, mais le problème lié à l'économie criminelle, qui vivait effectivement de cette affaire-là.
Oui.
Donc voilà, un vrai problème posé au mauvais moment. La preuve, c'est que Valls a dit « stop, c'est une connerie, je ne vais pas en entendre parler ». Hollande, pareil. Hein. Mais alors, c'est quand même plus drôle, c'est que le MJS s'est engouffré effectivement dans la piste ouverte par M. Le Guen, et à contre-courant, en fait, de son gouvernement, si je puis dire, quoi, hein, et de la priorité nationale qui n'est quand même pas ça, quoi. En fait, aujourd'hui, me semble-t-il, notamment chez les jeunes, s'est engouffré. Ça n'a pas duré longtemps. Hein,
oui, mais alors justement, nous avons si un JS au micro, donc j'aimerais entendre son point de vue.
Si je peux me permettre, effectivement, en tant que jeune socialiste, je crois que c'est un vrai problème aujourd'hui, qui est posé depuis longtemps. C'est un vrai problème qui est posé depuis longtemps, mais qui n'a jamais vraiment été posé et qui a toujours été mis sous le tapis. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il arrive cette question de dépénalisation du cannabis, quand elle arrive dans les médias, quand elle arrive dans la sphère publique, eh bien, on a toujours un ministre, un responsable politique qui dit, non, c'est pas le moment d'en parler, il y a d'autres priorités. Il y a la priorité du chômage, il y a la priorité de la sécurité, il y a d'autres priorités qui sont là. Sauf que derrière la question du cannabis, il y a toutes ces priorités-là qui sont mises en avant parce qu'il y a derrière ça la possibilité de créer de l'emploi, il y a derrière ça la possibilité de ramener de l'argent dans les caisses.
Ça, je le retiens.
Attendez,
je le retiens, mais c'est formidable.
Mais je terminerai.
Qui nous dit que grâce à l'admiration, on va créer de l'emploi.
Mais bien évidemment, selon aujourd'hui, c'est pas la dépénalisation du cannabis dont il faut parler. C'est pas la dépénalisation du cannabis dont il faut parler. Aujourd'hui, la France est le premier consommateur de cannabis en Europe. Donc, face à un sujet comme celui-ci, oui, selon comment on met en place la vente du cannabis en France, oui, il peut y avoir de l'emploi derrière, oui, il peut y avoir des taxes qui rentrent dans les caisses de l'État. Et en plus, sur ça, eh bien, quand vous dites que les jeunes, c'est pas leur problématique, etc., mais oui, mais les jeunes, ils en veulent toujours plus. C'est François Hollande qui
toujours
disait
plus
hier.
Cannabis, non, toujours plus
cannabis, c'est François Hollande qui disait plus, c'est François Hollande qui disait hier. Et j'attends aujourd'hui qu'on vienne me démontrer que les lois aujourd'hui qui interdisent la consommation de cannabis fonctionnent. Je le rappelle, la France est le premier consommateur de cannabis en Europe. Aujourd'hui, je pense que la législation en place ne fonctionne pas. Et le rôle du législateur, le rôle de l'État, c'est de mettre des législations qui fonctionnent, qui permettent de combattre les choses. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui faire de la... Mais non, c'est vrai. Aujourd'hui, on peut pas parler de sensibilisation sur la question du cannabis.
Bon, monsieur, on a compris.
Alors qu'il est interdit.
On a compris.
Alors Michel hallucine doublement.
Ah, vous parce que le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est effectivement l'intervention de Zogan. Maintenant, aujourd'hui, dans ce mouvement, et la cible
en réponse à une question d'une journaliste.
La question du journaliste, effectivement, qui n'était pas neutre, qui avait été suggérée. Alors, mais, cela dit, quand même, je retiens, et vous avez bien fait, effectivement, de le dire, monsieur Enzo Lefebvre, que le mouvement du socialiste soutenait ce mouvement-là, qui a été créatrice d'emplois, qui a été créatrice de fiscalité, etc. Ce qui prouve qu'effectivement, le marché, contrairement à ce que l'on peut entendre, en fait, notamment dans chez les mines bouddhistes, était une technique économique, en fait, morale, en fait, et politique, qui permettait de régler des problèmes que se posent les jeunes comme vous.
Voilà.
Mais c'est un problème sanitaire aussi qu'il faut régler.
Alors c'est un problème, moi je prends note, c'est un sujet sur lequel forcément on reviendra à Radio
Bien sûr, bien sûr.
Passons maintenant aux crues, alors les crues aquatiques, alors, c'est un sujet, de six gens.
C'est un sujet très intéressant, beaucoup plus sérieux, en fait, hein, si je puis dire. Qui concerne effectivement les Narbonnais.
Allez, on se jette à l'eau.
Voilà, on se jette à l'eau. En 2018, l'agglomération de Narbonne, donc le Grand Narbonne, va récupérer la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.
Voilà, un joli terme technocratique qui est GEMAPI.
Illustrons. Hein. Aujourd'hui, il y a un syndicat qui est présidé par M. Jam, le maire de Sigean,
oui.
Qui est le syndicat des berges Rieux Minervois, enfin, etc.
De la Berre,
de la Berre et du Rieux Minervois, etc. Et qui, ce syndicat, en tout cas pour la partie des communes en fait, qui sont dans l'agglomération du Grand Narbonne, hein, va être transféré en 2018, la compétence gérée par ce syndicat et par ce qui va être transféré à l'aglo en 2018. D'accord ?
Oui.
Bien. Les syndicats en question aujourd'hui est alimenté par des contributions de chacune des communes membres. Sous. Il faut bien qu'ils vivent, quoi. Il faut bien qu'ils fassent son boulot. Donc en 2018, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que l'agglomération aura le choix entre deux possibilités pour gérer cette compétence et notamment la gérer avec des moyens financiers.
Oui,
correspondant aux charges du syndicat en question.
Les moyens sont forcément financiers.
Deux solutions. Soit elle prélèvera une taxe par habitant, d'un montant maximum de 40 euros, si je vois de mémoire, enfin quelque chose comme ça, bon, peu importe. Hein, c'est, bah, d'après mes calculs, ça serait autour de 10-11 euros pour le Grand Narbonne, très rapidement fait. Soit diminuer l'attribution de compensation que chaque année l'agglo reverse fait aux communes. En gros, c'est 20 millions d'euros fait pour toutes les communes de l'agglo, quoi. Hein. Mais là, bon, pour la partie correspondance aux communes de ce syndicat. D'après toi, en fait, Jean-Claude, que vont faire les communes membres de l'AGO ? Est-ce qu'elles vont choisir la première ou la seconde solution ?
Oui, oh ben la réponse, de la manière dont tu poses la question, la réponse est toute trouvée.
Ben la réponse, effectivement, c'est qu'elles ne vont pas vouloir à ce qu'on touche la diminution, enfin leur attribution de compensation, surtout pas. mais qu'on mette en place la taxe par habitant. Pourquoi ? Mais parce que, par exemple, celui qui paye, en fait, je ne sais combien de points de fiscalité qui a habitant Sigean, mais il constatera sa feuille d'impôt, que tout ce qui a été transféré, en fait, correspondant à cette compétence-là de la gestion des milieux aquatiques à l'agglo, ça n'a pas diminué ses subventions. Son impôt. Donc la commune aura fait deux coups. C'est-à-dire qu'elle conservera le montant total de l'attribution de compensation de l'agglo. Elle ne diminuera pas en fait, ses ressources correspondant à ce qui a été transféré à l'agglo. Et elle gagnera le montant équivalent.
Voilà. Eh bien, écoute, ça permettra à certains de parler de bombes fiscales.
C'est une prévision. Je fais le pari. Rendez-vous donc en 2018.
Voilà. Et on marque une première pause.